France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 6 juillet. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le gouvernement demande aux partis politiques de se prononcer sur une possible obligation de vaccination pour les soignants. Une question qui divise alors que la pandémie repart en Espagne, notamment en raison du variant Delta. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
Un sommet social ce matin à l'Élysée et une question. Y a-t-il urgence à réformer le système des retraites? Quand autorité rime avec autoritarisme à Ramallah, en Cisjordanie, c'est l'heure du réquisitoire dans l'affaire Troadec. Et puis si je vous dis tapis rouge, salles obscures et palme d'or, vous me répondez, Nicolas?
Festival de Cannes. Et justement Léa, 7h50.
Justement, oui, il veut que ce soit le festival des retrouvailles du cinéma mondial après une année blanche l'année dernière. Thierry Frémaux sera avec nous à 7h50, le délégué général du Festival de Cannes.
Festival de Cannes. Et à 8h20, on se retrouve, Léa, pour le grand entretien avec aujourd'hui le maire Europe Écologie de Grenoble, Éric Piolle, candidat à la primaire des Verts pour la présidentielle. Voilà, j'y suis arrivé. Le numéro du standard 01 45 24 7000.
France Inter. La vaccination en trois questions. Tous les partis politiques représentés au Parlement doivent rendre leur copie aujourd'hui avant midi et répondre donc clairement aux questions posées par Matignon. Doit-on imposer une obligation vaccinale pour les soignants? Exiger pour les Français un pass vaccinal? Et peut-on décider d'une assignation à résidence stricte et contrôlée pour les malades? Du Rassemblement National à la France Insoumise, ces questions divisent. Et c'est le gouvernement qui y tranchera après-demain. Laurence Perron.
Attention, sujet hautement inflammable. Et tous les partis politiques d'opposition l'ont compris. Les trois questions posées par le Premier ministre ne doivent en aucun cas servir de caution à l'exécutif s'il échoue dans sa guerre sanitaire. À droite, Damien Abad, le patron des LR, refuse de trancher, fumée blanche demain midi après la réunion de son groupe parlementaire. Le Parti communiste est sur la même ligne, un peu gêné toutefois aux entournures par le refus du patron de la CGT, Philippe Martinez, d'une obligation vaccinale pour les soignants. Les socialistes sont tranchés, oui à l'obligation pour les soignants, oui au pass vaccinal, non au contrôle des malades. Le RN réserve confidentielle sa réponse quand la France insoumise, divisée en interne, a choisi de contre-attaquer par une autre question. Pourquoi ne pas soumettre vos options de lutte contre la pandémie à un véritable comité de parlementaires en leur permettant pourquoi pas d'entrer dans le sein des saints, le Conseil de défense, critiqué pour le coup par l'ensemble de la classe politique.
En attendant donc la décision du gouvernement et un possible projet de loi avant la fin du mois pour rendre obligatoire la vaccination pour les soignants, la pression est très forte sur les personnels des EHPAD et les directeurs d'établissements qui doivent aussi composer avec les familles et le risque de contamination qu'elles représentent. Cécilia Arbona a joint la responsable d'un EHPAD en Auvergne.
Barricader sa maison de retraite face au Covid, c'est la priorité de Fabienne Chardin, directrice de l'EHPAD de Loubéra dans le Puy-de-Dôme.
Quand nous avons vécu notre cluster au mois d'octobre, on a identifié assez rapidement, parce qu'elle nous l'a dit, que ça venait d'une salariée. 3-4 jours après, on a commencé à voir des résultats positifs chez nos résidents. Ça n'a pas été tabou parce qu'on a toujours joué la transparence. Chacun s'est senti potentiellement vecteur de ce virus, donc il n'y a pas eu du tout de discrimination en interne vis-à-vis de cette salariée. Par contre, elle, ça a été assez difficile à vivre. Elle s'est sentie responsable. On a eu 3 décès.
Sur 56 salariés, 10 ne sont toujours pas vaccinés.
Toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées dans notre établissement sont testées toutes les semaines.
Est-ce que vous testez aussi les familles des résidents qui entrent
non,
chez vous?
Non, pas. Ah non, non, non.
Donc le virus peut entrer par des familles, on est d'accord?
Bien sûr, le virus peut rentrer par des familles. Les enfants des résidents ont une 60aine d'années, donc il y en a beaucoup qui sont quand même vaccinés. Je ne leur ai jamais demandé, donc je ne sais pas. Je ne souhaite pas l'exiger et je ne l'exigerai pas.
Pour Fabienne Chardin, infirmières et aides-soignantes doivent respecter certaines règles.
Elles sont professionnelles, elles s'occupent de personnes qui sont fragiles, elles ont plein d'autres responsabilités professionnelles, ça en fait partie.
Elle espère atteindre l'immunité collective dans sa résidence au cours de l'été.
Cécilia Arbona. Et puis au niveau national, un peu plus de la moitié de la population française a reçu au moins une dose de vaccin et plus d'un tiers est entièrement vacciné. Et la situation est contrastée contrastée chez nos voisins européens, avec donc une explosion du nombre de cas chez les jeunes Espagnols. Résultat, l'Andalousie et la Catalogne envisagent le retour de certaines mesures de restriction. La Grande-Bretagne s'apprête-t-elle à lever toutes les restrictions le 19 juillet. Ce sera alors fini pour les masques et la distanciation sociale.
Il est 7h05, Agnès, la pandémie et la vaccination au menu aussi d'un sommet social ce matin à l'Élysée.
Une réunion d'écoute en présence des 8 chefs de file des grandes centrales syndicales et patronales, d'Emmanuel Macron, Jean Castex et des ministres de l'économie et du travail, pour faire le point aussi sur la relance et évoquer le dossier sensible des retraites. Le chef de l'État va-t-il relancer une réforme à moins d'un an de la présidentielle? Le débat n'est pas clos. L'une des pistes évoquées est de reporter l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Mais y a-t-il véritablement urgence à réformer? Élément de réponse avec Hélène Filly.
Aujourd'hui, les Français peuvent prendre leur retraite à partir de 62 ans. Mais dans les faits, ils partent déjà plus tard, en moyenne à 62 ans et 2 mois pour les hommes. Et cela ne cesse de bouger, car les précédentes réformes continuent de produire leurs effets. Celle du quinquennat de Nicolas Sarkozy en 2010, puis la réforme Touraine en 2014, qui allonge progressivement la durée de cotisation à 43 ans. Rien qu'avec ce qui est prévu par ces textes, les Français partiront en retraite à un peu moins de 64 ans en 2040, selon le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Et le poids des dépenses de retraite va baisser. 14% du produit intérieur brut aujourd'hui, c'est l'un des niveaux les plus élevés de l'OCDE, mais autour de 12% en 2070, 2 points de moins, malgré un vieillissement de la population. Les partisans d'une réforme doutent d'une projection si lointaine. Les opposants, à l'inverse, s'appuient sur cette analyse d'une trajectoire maîtrisée pour dire qu'il n'y a pas le feu au lac.
Et Emmanuel Macron devrait prendre la parole autour du 14 juillet pour définir les priorités de la fin de son quinquennat. À droite, l'hypothèse d'une primaire ouverte fait son chemin avec une tribune en ce sens signée ce matin par Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau et Hervé Morin dans le Figaro. En bref, encore les 750 000 candidats au bac cette année n'ont plus que quelques heures à attendre. Les résultats seront mis en ligne académie par académie à partir de 9h.
Il est 7h07 en Cisjordanie occupée. Les manifestations contre le président de l'autorité palestinienne, Agnès, sont de plus en plus sévèrement réprimées.
Hier soir encore, au moins 18 personnes ont été interpellées à Ramallah. Leurs familles venues les soutenir ont également été victimes de violences. Une situation qui ne cesse de se dégrader depuis la mort du militant palestinien Nizar Banat le 24 juin dernier. Les journalistes sont également pris à partie. Reportage à Ramallah d'Alice Froussard.
Lors des manifestations, il y a eu des gens battus, traînés sur plusieurs mètres, frappés par des coups de pied venant des partisans de l'autorité palestinienne. Il y a eu aussi ces arrestations arbitraires, celles d'avocats, celles de jeunes et les manifestants qui à chaque fois subissent la violence, les gaz lacrymogènes et les grenades de la police palestinienne. Et puis il y a ces journalistes, des femmes majoritairement, téléphones arrachés, matériel confisqué par les forces de sécurité palestinienne en civil alors qu'elles couvraient les rassemblements, parfois frappées, parfois harcelées. Faya Khanfar avoue sa peur de se déplacer désormais. Elle est journaliste palestinienne freelance.
Tout ce dont je me souviens, c'est que quelqu'un m'a poussé par derrière et que je suis tombée par terre parce que je courais vite. Donc ma chute a été très douloureuse et forte.
Au-delà de la répression, le malaise est profond contre l'autorité palestinienne. L'annulation des élections, les difficultés économiques, le rétablissement de la coopération sécuritaire avec Israël, les accès prioritaires aux vaccins contre le coronavirus pour les responsables. Il y a un sentiment d'abandon, un manque de représentation, un manque de démocratie et de liberté d'expression, expliquent des militants. Pour le moment, seul le ministre du Travail, Nasri Abou Jaych, issu du Parti communiste, a présenté sa démission en réaction. Ramallah, Alice Froussard, France Inter.
Et puis un premier échec pour la nouvelle coalition au pouvoir en Israël. La loi interdisant de donner la citoyenneté et le séjour à une personne palestinienne épousant une personne israélienne n'est pas prorogée. La droite de Netanyahou, pourtant favorable au texte, a voté contre pour tenter de prouver l'impuissance de cette coalition. Retour en France avec le réquisitoire attendu aujourd'hui au procès de l'affaire Troidec. Au cours des 10 jours de débat, la cour d'assises de Loire-Atlantique a cherché à comprendre ce qui a poussé Hubert Caouissin a tué son beau-frère, sa belle-sœur et leurs deux enfants. Les experts ont diagnostiqué un délire paranoïaque autour d'une histoire d'or soi-disant volée. Corinne Audouin.
Elles se sont faites discrètes sur les bancs qui leur sont réservés, les sœurs de Brigitte Troadec, les tantes et les cousines de Pascal Troadec. On les voyait juste parfois essuyer une larme durant les moments les plus éprouvants lors du récit de la mort de leurs proches. Olivier Pacheux est l'avocat de la famille de Pascal.
C'est un procès qui est très difficile avec des choses terribles à entendre. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et puis il y a autre chose, c'est qu'en réalité c'est une famille entière qui a disparu. Et donc on parle de l'absence absolue de tout le monde. Et donc c'est évidemment quelque chose de très, très, très difficile à supporter sur le plan humain.
Après les parties civiles, les deux avocats généraux se lèveront pour leur réquisition, même si les experts psychiatres ont conclu à une altération du discernement pour Hubert Caouissin en raison de son délire chronique paranoïaque. Son avocat Thierry Filion ne s'attend de la part de l'accusation à aucune indulgence.
Des réquisitions sévères certainement compte tenu du dossier. Je crois qu'il faudrait être totalement naïf pour penser le contraire. Nous verrons.
Hubert Caouissin encourt la perpétuité. Si l'altération de son discernement est retenue, la loi prévoit que la peine encourue soit réduite à 30 ans de réclusion criminelle. Mais la cour d'assises peut décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.
Et l'ex-compagne d'Hubert Caouissin, Lily Troadec, encourt 3 ans de prison pour avoir aidé à dissimuler les traces du crime. En bref, encore, le ministre de la Justice est convoqué le 16 juillet devant la Cour de justice de la République en vue d'une mise en examen. Éric Dupond-Moretti est soupçonné d'avoir profité de son poste de garde des Sceaux pour régler des comptes avec des magistrats avec qui il avait eu maille à partir alors qu'il était avocat. Et puis, l'ex-ministre du budget, Éric Woerth, a lui été mis en examen pour concussion, ce qui signifie l'octroi d'un avantage fiscal indu dont aurait bénéficié Bernard Tapie. Le début ce soir des demi-finales de l'Euro de foot avec Italie-Espagne à 21h au stade Wembley à Londres. 60 000 spectateurs attendus. Et puis les coureurs du Tour de France reprennent la route ce matin. 190 km entre Albertville et Valence et Pogacar est toujours en jaune. Enfin le soleil sur la Croisette avec une 74e édition du Festival de Cannes qui s'annonce exceptionnelle après une année blanche. Le bonheur de retrouver un tapis rouge que vont fouler les stars venues du monde entier. Et ça commence donc ce soir avec un opéra rock flamboyant. Alexis de Meyer est à Cannes pour France Inter.
Avec Marion Cotillard et Adam Driver sur les marches ce soir pour ouvrir les festivités, le très très attendu Annette, signé Léo Scarrax, fait l'ouverture dans la grande salle du Palais des Festivals. Puis le jury, présidé par Spike Lee, aura 23 autres longs métrages à visionner avant de remettre la Palme d'Or et donc de trouver un successeur à Parasite. Et le casting de cette 74e édition est particulièrement prestigieux, avec les nouvelles œuvres de Nanni Moretti, Paul Verhoeven, Bruno Dumont, François Ozon, Sean Penn ou encore Wes Anderson. The French Dispatch, la nouvelle fantasy du réalisateur de Moonrise Kingdom, sera d'ailleurs l'occasion d'assister à une belle montée des marches lundi prochain, puisque Frances McDormand, Cécile de France, Léa Seydoux, Mathieu Amalric, Bill Murray et Benicio Del Toro, entre autres, sont attendus sur la Croisette. Et puis, deux cinéastes auront l'occasion de tenter de réaliser un doublé. Les déjà palmés Apichatpong, Guerra Setakul et Jacques Audiard sont en effet de retour en compétition avec Memoria et Olympiade. En tout, 7 films français sont sélectionnés cette année. C'est une grande première à Cannes.
Et durant toute la durée du festival, durant 11 jours, nous retrouverons tous les jours à 7h23 Corinne Pellissier pour le journal du festival. Et ça commence donc ce matin avec le film de Léo Scarrax.
Merci Agnès Soubiran. Le Zoom dans 3 minutes consacré aujourd'hui à des paroles rares, celles de passeuses de drogue.